Déroulement du livre. Parcourant leur ville et leur village, il enseignait.
À Déroulement du livre, aujourd'hui, nous vous présentons la première d'une série de 5 émissions animées par le Père Roland Ménet, jésuite théologien, professeur émérite de l'Université pontificale grégorienne à Rome. La série s'intitule « Le psautier ».
Roland Ménet, Le Psautier, premier épisode. Les éditions Peters ont publié entre 2017 et 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Un volume pour chacun des 5 livres qui forment Le Psautier et un volume où j'étudie les rapports entre les 5 livres, c'est-à-dire l'architecture de l'ensemble du Psautier. Il avait été prévu d'en faire une présentation publique à l'Université grégorienne où je suis professeur émérite. Mais la pandémie du COVID-19 en a décidé autrement. On m'a donc vivement conseillé d'en faire une présentation d'un autre type, de les présenter de la manière la plus simple possible pour le public le plus large. Je le ferai donc en 6 étapes. En présentant chacun des 6 volumes dans l'ordre où ils ont été publiés. L'ordre de publication pourra surprendre. Nous aurons l'occasion de nous expliquer sur cette question. Commençons donc par le dernier des 5 livres du Psautier. J'aurais pu intituler ces 6 communications « La composition du Psautier ». Mais voilà une expression ambiguë. Elle peut signifier l'histoire de la composition du psautier. Ce qui intéresse dans cette perspective, c'est la manière dont le psautier s'est formé. Pourquoi ? Parce qu'on pense, à juste titre, qu'il n'a pas été rédigé d'une seule traite, comme le serait un roman contemporain. En outre, on a de bonnes raisons de croire que les psaumes n'ont pas été écrits par un seul auteur, mais au contraire par plusieurs. Du reste, si l'on en croit les titres qui leur sont donnés, 74 sont dits de David, 12 des fils de Corée, 12 aussi d'Asaph, 2 de Salomon, 1 de Moïse, 1 aussi d'un certain Éthan, et puis 48 psaumes n'ont pas d'attribution. Ainsi, les psaumes composés par un assez grand nombre de poètes à différentes époques, en différents lieux, se seraient agglutinés petit à petit en de petites collections indépendantes avant d'être réunis en un seul livre. En somme, un processus complexe, une longue histoire qu'il s'agirait de retracer pour mieux comprendre le texte. Nous avons évoqué l'exemple d'un roman moderne rédigé par un auteur unique. Mais prenons un autre cas, celui d'un livre de poésie, toujours d'un même auteur. Si un roman a pu être écrit d'une seule venue, tel n'est pas le cas d'un recueil de poèmes. Chaque poème a été écrit à une date différente, souvent à des années de distance, en des occasions et pour des motifs divers. Et puis un beau jour, leur auteur décide de les réunir en un seul volume. Alors que fait-il ? Il les dispose dans un certain ordre, pas forcément l'ordre chronologique. Il les organise en différentes parties, comme des chapitres, auxquels quelquefois il donnera même un titre. Il fait œuvre de composition. Il avait fait œuvre de composition pour chacun de ses poèmes. Maintenant, il fait œuvre de composition à un niveau supérieur celui de l'ensemble du recueil. Bien, supposons d'abord que nous ayons des renseignements très précis sur la date et sur les circonstances de chaque poème, qu'on ait aussi des informations sur le travail de composition du volume, parce que, par exemple, nous aurions le journal du poète dans lequel il réfléchissait par écrit à son projet, aux différentes façons qu'il avait envisagées d'opérer son choix de poème parmi la multitude qu'il avait composée. Tout cela serait très intéressant pour comprendre bien des aspects du recueil publié. Mais imaginons au contraire qu'on ne sache absolument rien de la rédaction de chaque poème et pas davantage de la formation du recueil. Nous n'aurions que le volume publié et ajoutons même que nous ignorions le nom de l'auteur, donc que nous ne sachions rien du tout de sa vie. Alors dans ce cas, nous ne pourrions rien dire sur ce livre ? Nous ne pourrions pas l'analyser, nous ne pourrions pas le commenter, mais bien sûr que si. Et puis, nous ne sommes pas complètement démunis devant le psautier avec les 150 psaumes qu'il contient. C'est que le livre lui-même s'organise en 5 parties, que la tradition appelle curieusement 5 livres. Voilà donc un livre formé de 5 livres. Et comment le sait-on ? Chaque livre a-t-il un titre ? Non, mais chacun est doté d'une conclusion semblable, une conclusion qui est comme une sorte de signature. Ces conclusions sont appelées des doxologies. Une doxologie, c'est une formule plus ou moins longue qui rend gloire à Dieu. Parce que gloire en grec, ça se dit doxa, d'où doxologie. Ainsi, le premier livre du psautier, soit les 41 premiers psaumes, s'achève par cette doxologie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, amen. À la fin du deuxième livre, la doxologie est plus développée. Elle commence par « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël », on y retrouve aussi « Pour toujours », et puis deux fois « Amen ». Et en plus, quelques mots qui ne sont pas une prière, mais disons une note éditoriale. Fin des prières de David, fils de Jessé. À la fin du troisième livre, nous avons une formule extrêmement brève, réduite à l'essentiel. Béni soit le Seigneur pour toujours. Amen, amen. À la fin du quatrième livre, la formule est un peu plus ample, avec une invitation lancée à tout le peuple de s'unir à la louange du psalmiste. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours, et que tout le peuple dise Amen. Alléluia. Quant au cinquième livre, sa doxologie s'étend sur les 5 derniers psaumes du psautier, les psaumes 146 à 150. Parce que c'est non seulement la conclusion du dernier des 5 livres, c'est le grand final qui clôture en majesté l'ensemble du psautier. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Bien, alors le psautier lui-même nous signale son organisation en 5 livres. Maintenant, il s'agit de voir si chacun des 5 livres est simplement un groupe de psaumes mis ensemble n'importe comment, ou au contraire, si ces psaumes sont organisés selon un plan, selon une architecture, où chaque pièce trouve sa place et sa fonction en relation avec toutes les autres. On a très longtemps pensé qu'il était inutile de chercher une organisation du psautier. Mais depuis 30 ou 40 ans, un certain nombre de savants ont commencé à se demander si ce ne serait pas le contraire. Il y a longtemps qu'on sait que certains psaumes vont par paires, par exemple les psaumes 50 et 51. Le psaume 50 est un réquisitoire où Dieu accuse son peuple de lui être infidèle. Et le psaume suivant est la réponse à cette accusation. Le psalmiste reconnaît son péché et se confie à la miséricorde de Dieu. C'est le fameux miserere. Pitié pour moi, Dieu, en ta bonté, en ta grande tendresse, efface mon péché. On sait aussi depuis toujours qu'il y a des groupes de psaumes qui ont le même titre, par exemple les psaumes de Corée, ou bien les psaumes des montées, les psaumes 120 à 134. Ces 15 psaumes, courts pour la plupart, forment une petite collection qui présente une cohérence certaine. Mais qu'en est-il d'un livre entier? Eh bien, examinons le 5e livre, c'est-à-dire les psaumes 107 à 150, soit les 44 derniers psaumes du psautier. Mais vous me demanderez, pourquoi commencer par le dernier des 5 livres? Eh bien, c'est simplement parce que c'est le premier que j'ai étudié et que j'ai publié en 2017. Et pourquoi donc ai-je commencé par la fin? Eh bien, tout bonnement pour des raisons pratiques. J'en avais déjà étudié des portions importantes et certaines depuis longtemps. Le psaume 145, un psaume acrostiche alphabétique. Un acrostiche alphabétique est un poème dont chacun des vers ou groupe de vers commence par une lettre de l'alphabet dans son ordre traditionnel. En français, c'est A, B, C, D, E, F, etc. En voici un exemple qui fait mieux comprendre ce que c'est qu'un acrostiche alphabétique. Attention, mesdames et messieurs, bonheur, je sais que vous le cherchez, car c'est un bien si précieux, désiré par tous, parce qu'heureux il nous fait, etc. En hébreu, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, etc. Voici comment est présenté le psaume 111 dans la traduction de la Bible de Jérusalem. Comme la traduction ne peut pas rendre l'acrostiche, on fait précéder la ligne par le nom de la lettre de l'alphabet hébreu. Ce qui donne ceci, Aleph, je rends grâce au Seigneur de tout cœur, Bet, dans le cercle des justes et l'assemblée, Gimel, grandes sont les œuvres du Seigneur, Dalet, digne d'étude pour qui les aime, Hé, faste et splendeur son ouvrage, etc. J'avais aussi étudié et publié le psaume 119, le plus long du psautier, qui est aussi un acrostiche alphabétique, et encore les 6 psaumes du Hallel égyptien, c'est-à-dire les psaumes 113 à 118, et puis encore les 15 psaumes des montées, dont j'avais étudié la composition. En tout, j'avais donc étudié et publié 23 psaumes sur 44. Cela dit, il est temps de dire à quel résultat je suis arrivé. Le 5e livre du psautier est construit de manière concentrique. C'est là une figure prédominante dans la Bible. Commençons par le centre. Au centre du 5e livre se trouve le fameux psaume 119, le plus long de tous les psaumes. Il contient 176 versets. Pour vous donner une idée de la grandeur de ce monument, les 15 psaumes qui le suivent, les 15 psaumes démontés, comptent 101 versets. Les 6 psaumes du Hallel égyptien qui précèdent le psaume 119 comptent 85 versets. Autrement dit, avec ces 176 versets, le psaume 119 est presque aussi long que l'ensemble des 21 psaumes du Hallel égyptien est démonté, qui totalise 186 versets. Le psaume 119 est un psaume qui célèbre la Torah, la loi du Seigneur, avec ses 22 strophes de 8 vers. Avant ce centre se trouve un groupe de 6 psaumes qu'on appelle le Hallel égyptien. Hallel signifie louange. Pourquoi égyptien ? Parce que ce sont les psaumes que les Juifs et les chrétiens aussi chantent durant la nuit de Pâques, la nuit où l'on fait mémoire de la sortie d'Égypte, où l'on fait mémoire de la libération de l'esclavage où les fils d'Israël avaient été réduits en Égypte. C'est la nuit où ils avaient traversé la mer Rouge pour accéder à la liberté. Après la sortie d'Égypte, le peuple des fils d'Israël avait cheminé durant 40 ans dans le désert, et c'est pendant cette période qu'ils avaient reçu la loi que Dieu leur avait donnée par l'entremise de Moïse sur le mont Sinaï. Voilà pourquoi le psaume 119, le grand psaume de la loi, vient, comme naturellement, après le Hallel égyptien. Et maintenant, qu'y a-t-il dans le cinquième livre après le psaume de la loi, le long psaume 119? Eh bien, le groupe des 15 petits psaumes démontés. On les appelle psaumes démontés parce que dans le titre de ces 15 psaumes, on lit « Cantique démonté » ou « Cantique pour les montées ». Monter vers où et à partir d'où? Eh bien, monter à partir de Babylone vers Jérusalem, à partir du pays où les fils d'Israël avaient été déportés par Nabucodonosor, vers Israël, leur propre pays. Les psaumes démontés célèbrent le retour d'exil et en même temps implorent le Seigneur de les faire revenir parce que tous les exilés ne sont pas encore rentrés en Israël. Les prophètes de ce temps-là présentaient le retour d'exil comme un nouvel exode. Ainsi Jérémie qui écrit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où l'on ne dira plus « Le Seigneur est vivant qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte », mais « Le Seigneur est vivant qui a fait monter et rentrer la race de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait dispersés pour qu'ils demeurent sur leur propre sol ». Jérémie dit « Le Seigneur qui a fait monter les fils d'Israël du pays d'Égypte » et il répète qu'il les a fait monter du pays du Nord. On monte en Israël, on monte à Jérusalem. En hébreu moderne aussi, on ne dit pas « immigrer en Israël », on dit « monter en Israël ». Donc le psaume 119 est encadré par les deux exodes. Avant par l'exode ou la sortie d'Égypte, le pays de l'esclavage, après par le nouvel Exode qui a fait sortir les fils d'Israël du pays de l'exil, l'exil qui est une autre forme d'esclavage. J'ai déjà dit que les cinq derniers psaumes du cinquième livre constituent la grande doxologie qui conclut non seulement le dernier livre, mais aussi tout l'ensemble des cinq livres du psautier. Avant le Hallel égyptien et après les psaumes des montées, il reste deux groupes de psaumes. Ce sont des psaumes d'action de grâce et de louange. L'action de grâce et la louange s'opposent à une parole mauvaise. Au début, l'action de grâce s'oppose au mensonge, à l'imposture. À la fin, la louange s'oppose au venin du serpent mortel. Il n'est pas possible en quelques minutes de justifier en détail ce que je viens de résumer à très grands traits. Il y faudrait évidemment beaucoup plus de temps. Si vous le désirez, vous pouvez lire mon commentaire. Mais je vais quand même ajouter quelque chose, disons une curiosité. Une curiosité cependant qui a son importance, car elle constitue un des éléments qui confirme la composition de l'ensemble du livre. Vous vous souvenez que nous avions dit que le psaume 119 au centre du livre est un psaume acrostiche alphabétique qui contient 22 strophes de 8 vers. Eh bien, la première section s'achève sur une paire de psaumes, les psaumes 111 et 112, qui eux aussi sont des acrostiches alphabétiques. Et d'autre part, la dernière section s'achève par le psaume 145, qui est lui aussi un acrostiche alphabétique. Et ce sont les seuls du livre. Si quelqu'un de vous était intéressé par ce genre particulier de psaume, j'en ai publié l'analyse dans un volume intitulé « Les huit psaumes acrostiches alphabétiques ». Est venu le temps de nous quitter. Rendez-vous au deuxième épisode de notre feuilleton. Nous avons vu aujourd'hui que le cinquième livre est bien composé. La prochaine fois, nous irons voir s'il en est de même pour le premier livre qui comprend les 41 premiers psaumes du psautier. À bientôt.
À déroulement du livre, vous venez d'entendre le père Roland Ménet, jésuite et théologien, dans une série intitulée « Le psautier ».